France Musique. Le trésor de la chapelle Sixtine. Tandis que le psaume s'élève sous la voûte de la chapelle Sixtine, les torches de la balustrade et les cierges jaunes des candélabres aux mille branches placés devant l'autel s'éteignent peu à peu. De leur lumière étouffée, une légère fumée blanche s'échappe, comme une petite vapeur selon la Sainte Écriture. Cette lueur mortuaire jette ses blêmes reflets sur la fresque de Michel-Ange qui se déploie sur la paroi de l'autel. Le jugement dernier, où la force du doigt de Dieu semble alors se mouvoir dans la chapelle Sixtine. Pénétré de la lecture de Dante, Michel-Ange a trempé ses pinceaux dans ses couleurs, comme le saint trempe son âme dans la prière. Le pape et les cardinaux sont prosternés. Le maître de chapelle ralentit la mesure en même temps que les chanteurs éteignent progressivement leur voix. Tous les damnés du jugement dernier s'agitent, comme torturés par la douleur. Leurs traits pâles et amaigris expriment l'angoisse éternelle. Leurs yeux versent des larmes de sang. Leurs dents grincent, leurs membres décharnés se tordent. Et les accords aigus et déchirants du miserere jaillissent comme les gémissements échappés de la poitrine des spectres éperdus. L'œuvre de Michel-Ange apparaît si terriblement vivante que l'ensemble de l'assistance, surtout étrangère, tourne vers elle son regard d'admiration, empreinte de terreur. En cette semaine sainte de 1769, seul un enfant ne semble prêter attention à la fresque si merveilleusement éclairée. La tête levée et presque renversée en arrière, les yeux en extase, la bouche souriante et entrouverte, comme pour goûter les sons qui montent, tout dans cet enfant exprime l'attention extrême. En proie à une vive émotion, Wolfgang Amadeus Mozart s'efforce d'en fixer l'empreinte ineffaçable dans son âme. Placé à côté de l'ambassadeur d'Autriche, l'enfant écoute sans bouger, comme pétrifié. Puis la dernière note du miserere retentit. Mozart quitte alors l'église sans prononcer une parole et rentre chez lui précipitamment. À la table de sa chambre, il retranscrit ce qu'il vient d'entendre, ce qui le submerge. Le lendemain, vendredi saint, à l'heure de l'office, il retourne écouter ses voix célestes, mais il a quelques feuillets cachés dans son chapeau. Un cardinal l'aperçoit et dès lors ne cesse de l'observer. Mais allait-il excommunier l'enfant de 14 ans ? Il n'était pas sans savoir que plusieurs copies avaient déjà su s'extraire de sa vigilance. C'est le pape Urbain VIII qui remarque le talent du jeune prêtre Gregorio Allegri, alors chanteur dans la chorale pontificale de la chapelle Sixtine. Allegri a déjà composé quelques motets et avant 1638, il compose ce Miserere Mei Deus, « Prends pitié de moi, Seigneur ». Chanté a cappella, à la fin de l'office des ténèbres, le mercredi de la semaine sainte et le vendredi saint, le Miserere d'Allegri devient au XVIIIe siècle une œuvre de convoitise. Soucieuse de rehausser la réputation de son chœur, la papauté interdit alors toute interprétation en dehors de la chapelle Sixtine et veille à ce qu'aucune copie de la partition ne soit faite, sous peine d'excommunion, afin d'en préserver le caractère unique. Le pape Clément XIV ferma les yeux sur le vol du jeune Mozart. Lors de leur séjour à Rome, Mozart et son père font la rencontre du docteur britannique Charles Burney. Burney effectue alors son grand voyage dans l'Europe musicale. Musicien anglais, organiste de son état, il souhaite entreprendre la rédaction d'une histoire générale de la musique. Burney visite dans chacune de ses destinations européennes, en France, en Italie, en Allemagne ou aux Pays-Bas, les églises et les théâtres. Il va aux concerts, se lie avec tous les musiciens professionnels ou amateurs qu'il rencontre, dépouille les bibliothèques et décrit tous les orgues qu'il découvre. Il ne manque pas non plus de nous relater ses rencontres avec tous les princes, ambassadeurs, aristocrates qu'il croise en chemin. Un désir de reconnaissance qui transparaît inlassablement dans ses écrits. Pour lui, il n'y a de vraie musique que la musique italienne, et tout ce qu'il entend lui paraît bon ou mauvais, suivant qu'on s'en rapproche ou que l'on s'en éloigne. Charles Burney accomplit deux séjours à Rome en se consacrant essentiellement à ses recherches en bibliothèque. Le cardinal Alexandre Albani lui fait ouvrir toutes les grandes portes du Vatican. Tous les Anglais résidant à Rome, mais aussi les Italiens, notamment le chevalier Santarelli, maître de chapelle du pape et chevalier de Malte, rivalisent de zèle pour lui être utile. Ce dernier lui procure tout ce qui se chante à la Sixtine durant la Semaine Sainte et une copie du Miserere d'Allegri. Charles Burney publie dès son retour à Londres en 1771 le fameux Miserere. Mais il n'y a que sous la voûte de la chapelle Sixtine que d'aucuns peuvent vivre une telle exaltation à l'écoute du Miserere. Ainsi, Madame de Staël, en 1807, évoque dans son roman Corinne ou l'Italie le pouvoir de la musique à travers Corinne et le spectacle à travers Oswald. Avec le Miserere, qui conseille le renoncement à la terre, c'est la dernière fois dans l'histoire de Corinne et d'Oswald que la musique se manifeste avec une telle force. Ainsi lit-on ces lignes. Le jour perce à peine à travers les vitraux, qui jettent sur les tableaux plutôt des ombres que des lumières. L'obscurité agrandit encore les figures déjà si imposantes des prophètes et des sibylles. L'encens apporte sa note funéraire à ce monde écrasant. Toutes les sensations préparent à la plus profonde de toutes, celle que la musique doit produire. Après Madame de Staël, Juliette Récamier, alors en exil, se rend à Rome pour la Semaine Sainte et entend le Miserere. Lors de son premier séjour en 1813, l'absence de Pie VII, emprisonné par Napoléon, empêche la cérémonie de se dérouler à la Sixtine. C'est alors dans la chapelle du chapitre de Saint-Pierre qu'est célébré l'office du Mercredi Saint. Malgré cette simplicité relative, l'émotion est à son comble. Les voix suraiguës des castrats ou d'enfants font la plus grande impression à Madame Récamier, mais aussi à un auditeur non loin d'elle qui sanglote. Dans ses mémoires d'outre-tombe, Chateaubriand écrit à celle qu'il entrevoit pour la première fois chez Madame de Staël, vêtue de blanc sur un sofa bleu, Juliette Récamier, sa plus tendre et fidèle amie. Rome, mercredi 15 avril 1829. Je commence cette lettre le mercredi saint, au soir, au sortir de la chapelle Sixtine, après avoir assisté à Ténèbres et entendu chanter le Miserere. Je me souvenais que vous m'aviez parlé de cette belle cérémonie, et j'en étais, à cause de cela, 100 fois plus touchée. C'est vraiment incomparable. Cette clarté qui meurt par degrés, ces ombres qui enveloppent peu à peu les merveilles de Michel-Ange, tous ces cardinaux à genoux, cet admirable chant de souffrance et de miséricorde s'élevant par intervalles dans le silence et la nuit. L'idée d'un Dieu mourant sur la croix pour expier les crimes et les faiblesses des hommes. Rome et tous ses souvenirs sous la voûte du Vatican. Que n'étiez-vous là avec moi? J'aime jusqu'à ces cierges dont la lumière étouffée laisse échapper une fumée blanche, image d'une vie subitement éteinte. C'est une belle chose que Rome pour tout oublier, pour mépriser tout et pour mourir.
À réécouter sur francemusique.fr.